Chapitre 37. Les griffes de l'ours soulevèrent une gerbe cinglante de glace. Franks eut tout juste le temps de rentrer la tête dans l'igloo. Souria, réveillée, s'était redressée et tentait visiblement de comprendre ce qui se passait. Ils étaient pris au piège. Le plantigrade les cueillerait dès qu'il mettrait le nez dehors et ne laisserait pas à Franks le temps de tirer. Par chance, le froid, en soudant entre eux les blocs de glace, avait renforcé la solidité de l'igloo. L'ours glissait impatiemment son museau dans l'ouverture, qu'il tentait d'agrandir en donnant de petits coups de bas en haut. Il bougeait trop vite pour que Franks puisse le viser. S'il manquait son coup ou le blessait, il risquait d'exciter sa fureur. Il fallait attendre, se calmer, guetter la première opportunité. Espérer que l'animal ne se mettrait pas en tête de démolir l'igloo pour en chasser ses occupants. Même durci par le froid, les murs ne résisteraient pas longtemps à ses coups de pattes dévastateurs. Souria vint se pelotonner contre Franks. Ses yeux noirs exprimaient une frayeur inhabituelle, comme si son innocence, sa grâce, se brisaient sur la puissance et la sauvagerie de l'ours. Ils restèrent un long moment suspendus à ses grattements incessants, à ses expirations ronronnantes. Deux ébranlements successifs leur firent craindre le pire, mais le silence retomba peu à peu. L'ours avait abandonné la partie. On ne l'entendait plus bouger ni respirer. Où étaient passés les chiens? S'était-il enfui après avoir flairé le danger? Pourquoi n'avait-il pas aboyé? Était-il mort? Souria tremblait contre Franks comme un oisillon tombé du nid. Elle ne l'avait pas accoutumé à ce genre de réaction. Il lui arrivait donc de redevenir une petite fille ordinaire, terrorisée par un monstre. Il la tint serrée contre lui en s'efforçant de disperser ses propres peurs. Elle finit par s'assoupir dans ses bras. Lui-même ne s'endormit pas, mais perdit toute notion du temps. Lorsqu'il reprit pied dans la réalité, Souria n'était plus dans ses bras. Elle n'était pas non plus dans l'igloo. Sa doudoune et son bonnet, également disparus. Il enfila son manteau, ses gants, son bonnet, et équipé de sa lampe et de son pistolet, se glissa par l'ouverture.
« Souria !»
Il l'aperçut un peu plus loin. Elle sautillait sur la glace, comme elle aurait joué à la marelle dans une cour de récréation. Une neige aussi fine et fluide que de la farine tombait du ciel ténébreux. Aucune trace de l'ours ou des chiens. Il rejoignit la fillette en quelques foulées. Elle lui jeta un regard joyeux, espiègle. Ses frayeurs enfantines s'étaient envolées. Il leur fallait repartir. Il retourna vers l'igloo y prendre le sac, le fusil et les pans de tissu qui leur servaient de masque. Des crissements répétés attirèrent l'attention de Franks. Il eut un tressaillement de surprise lorsque l'ours, lancé à vive allure, surgit de la nuit à moins de 10 mètres de lui. Il pressa la détente du pistolet. Bloqué. Il avait verrouillé la sûreté juste avant de prendre Souria dans ses bras. Fébrilement, il débloqua le cran et réussit à faire feu. Il manqua l'ours, parvenu à moins de 3 mètres de lui, où le coup ne fut pas suffisamment précis pour arrêter le plantigrade. Un tourbillon d'air et de glace l'emporta. Frappé au défaut de l'épaule, il décolla du sol et retomba sur le dos, souffle coupé. Il n'avait pas lâché le pistolet. Un grondement rageur derrière lui. Il se retourna. Ses mouvements lui semblaient affreusement lents, comme au ralenti. L'ours se tenait 2 mètres plus loin, titubant. Une étoile sombre s'épanouissait à la base de son cou, juste au-dessus du poitrail. La balle l'avait touché. Sa respiration s'enfuyait. Il grogna lorsqu'il vit l'homme se relever et se jeta sur lui avec une vivacité inattendue. Franks l'esquiva d'un bond sur le côté et tira une deuxième balle au jugé. L'ours se dressa sur ses pattes arrière et se dandina en poussant un grondement assourdissant. Son chant du cygne. Cette fois, Franks prit le temps de viser en se souvenant des conseils de Dalbar et il l'atteignit dans la région du cœur. L'ours oscilla quelques secondes avant de s'effondrer de tout son poids sur le côté et de se figer dans un dernier râle. Franks ne perdit pas de temps. Il alla chercher son sac et son fusil dans l'igloo et de nouveau recueillit le sang de l'animal dans l'écuelle qu'il tendit à Souria. Il résolut de tenter le tout pour le tout, de foncer en direction du Périgord noir en prenant le minimum de repos. Il récupérerait ensuite. Il n'avait plus aucun doute. Le feu de Dieu était resté debout et à l'intérieur, sa femme et ses enfants étaient en danger. Il lui fallait se gaver de la chair et du sang de l'ours, emmagasiner l'énergie nécessaire pour parcourir la distance d'une traite. Souria et lui burent autant de sang qu'il put en tirer, puis ils dévorèrent de petits cubes de chair prélevés dans les parties les plus tendres. Les crocs et les griffes de l'ours étaient aiguisés, effrayants. S'il en avait eu le temps, Franks aurait prélevé sa fourrure. Un rempart irremplaçable contre le froid. Des aboiements retentirent dans le lointain. Les chiens apparurent quelques secondes plus tard sur la plaine gelée. À en croire les plaies vives sur leur pelage, ils avaient livré de rudes combats. Sans doute s'étaient-ils lancés dans une chasse qui les avait entraînés loin de l'igloo. Ils se précipitèrent sur la dépouille de l'ours et lui déchirèrent l'abdomen. Quand Souria et lui furent repus, Franks vida le sac à dos des morceaux de viande, pesant et superflu. Il ne conserva que les lampes, les piles, les briquets, le dernier chargeur de balles et les cartouches. Ainsi allégé, il marcherait plus vite et serait disponible pour porter Souria. En misant tout sur la mobilité, il prenait des risques. Il devrait se réfugier dans un abri si le blizzard devenait trop violent et risquerait d'être enfermé de longues heures sans aucune ressource. Ils se mirent en chemin au milieu des flocons de plus en plus épais et denses. Franks retrouva le tracé de la Nationale 20, entre les coteaux pourvus comme de mâchoires imposantes de stalactites de glace. Les chiens les rattrapèrent après qu'ils eurent parcouru près de 3 kilomètres. Le silence buvait les bruits, les craquements de leurs semelles sur la croûte de neige dure, les sifflements de la bise, les halètements des animaux, les crissements des flocons. Il calquait son pas sur celui de Souria, une foulée quand elle en faisait deux, évitant de respirer trop profondément pour ne pas saturer d'air glacé sa gorge et ses poumons. Le phénomène lumineux de la veille, cette étrange aurore boréale aux allures de méduse céleste, ne se reproduisit pas. Le ciel demeura d'un noir profond, indéchiffrable. Le paysage se fit de plus en plus accidenté. Les tremblements de terre avaient forgé des pics élancés et creusé de profondes failles, brisant le tracé de la route. Partout les mêmes ruines prisonnières des glaces, la même désolation morne et grise. Probablement à cause des cendres vomies par les volcans d'Auvergne proches, les reliefs gisaient sous des couches plus épaisses, plus opaques. De temps à autre, un grondement menaçant montait des profondeurs du sol, et Franks craignait qu'un nouveau tremblement de terre ne l'empêche au dernier moment d'atteindre son but. Il marcha sans observer la moindre pause une quinzaine de kilomètres, jusqu'à la ville de Pierre-Buffière, portant Souria sur 3/4 du trajet. La neige tombait maintenant sans interruption. Il n'avait pas à lutter contre le vent, qui soufflait du nord et les poussait. Des tourbillons blancs fusaient sur les pentes et dans les vallées. De Pierre-Buffière, on ne distinguait qu'une masse informe et plus claire, sorte de cône aplatie aux pentes irrégulières d'où jaillissait, à l'autre bout, le tracé rectiligne et creux de la Nationale 20. Il la contourna sans chercher à l'explorer, persuadé qu'elle n'abritait aucune vie. Aussi fut-il surpris, alerté par les aboiements des chiens, de voir une silhouette avancer dans sa direction. Il s'arrêta et posa Souria par terre. Les chiens, échines arrondies, museaux au ras du sol, poussaient des grondements menaçants. Vêtu d'un anorak clair avec une capuche bordée de fourrure grise, équipé de lunettes, de gants et de bottes fourrées, armé d'un fusil d'assaut, l'homme arriva à sa hauteur. « Vous parlez français ?» Voix grave, ferme, habituée au commandement. Franks répondit d'un hochement de tête. « Vos chiens, ils sont dangereux ?»«
Je crois pas. »«
Vous en êtes sûr, mon vieux ? Vous fabriquez quoi dans le secteur ?» Les questions, sèches, incisives, désagréables, exigeaient une réponse. « Je rentre chez moi, à une 40aine de kilomètres de Brive. Et vous, que faites-vous ici ?» L'homme ne répondit pas. Ses yeux clairs dévisageaient Franks au travers des verres des lunettes. Les chiens recommencèrent à gronder. « Dites à vos kleps de la fermer, ils me rendent nerveux. »« Ils sont pas à moi, nous les avons trouvés sur le chemin et ils nous ont suivis. » D'une moue, l'homme signifia qu'il n'y croyait pas. « Vous venez de loin ?»«
Région parisienne. »
Deuxième moue dubitative. « Accoutré comme vous l'êtes, vous n'auriez pas pu faire plus de 10 kilomètres. »
« Nous avons eu de la chance.
Vous avez mangé quoi tout du long ?»«
Ce que nous avons trouvé. »«
Hé, monsieur, gardez les mains loin de votre fusil. »« Vous avez croisé d'autres survivants ?»«
Quelques-uns. »
Le regard inquisiteur de l'homme se posa sur Souria. « Que vous ayez réussi à parcourir tout ce chemin, je veux bien l'admettre. Mais elle est beaucoup plus résistante qu'il n'y paraît. » L'homme lança un coup d'œil courroucé aux trois chiens. « Je sais pas qui vous êtes, ni ce que vous fichez dans le coin, mais je vous engage à foutre le camp au plus vite. »«
Vous craignez quoi, que je tente de vous dépouiller ?»
L'homme hocha la tête. « Ce serait pas la première fois. On voit pas notre fumée aujourd'hui parce qu'il neige et qu'il fait mauvais, mais certains jours les pillards la repèrent et viennent nous rendre une petite visite et pas de courtoisie. »«
Vous en avez repoussé beaucoup ?»«
Plusieurs centaines. Heureusement pour nous, nous avons un excellent système de surveillance. »
et nous détectons toute approche. Vous, par exemple, ça fait presque une heure que nous vous observons. Vous êtes combien là-dessous? Comptez pas sur moi pour vous le dire. Vous pensez pas que c'est idiot? Qu'on aurait davantage de chances de s'en sortir en regroupant nos forces et nos ressources? Le rire de l'homme claqua comme un coup de fouet. C'est une guerre, mon vieux. Une putain de guerre. Si on n'avait pas arrêté les pillards, croyez-moi, eux nous auraient fait aucun cadeau. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez discuté avec eux? Ou vous les avez tués avant même qu'ils n'aient eu le temps d'ouvrir la bouche? L'homme ricana. Vous, plus vous l'ouvrez votre bouche, et plus je me dis que vous n'avez pas pu franchir les 400 bornes entre Paris et ici. Croyez ce que vous voulez, mon vieux, je m'en fous. Je dois vous laisser. Il me reste encore un bout de chemin à faire. Franks hissa Souria sur ses épaules, pivota sur lui-même et s'éloigna de son interlocuteur. Les chiens aboyèrent encore un moment avant de le rattraper.
T'avises surtout pas de revenir dans le coin!
Cria l'homme.
Merci de l'invitation, mais je suis pas sûr d'en avoir très envie!
Cria Franks sans se retourner. Il marcha jusqu'à l'extrême limite de ses forces, repoussant sans cesse la tentation de prendre du repos. Comme à leur habitude, les chiens suivaient à distance, trottant sur les crêtes ou les pentes des collines. De longs filaments de glace reliaient les cimes saillantes des arbres les unes aux autres, formant une gigantesque toile qui les protégeait des chutes de neige. Franks avait par instant l'impression d'évoluer sous une dentelle de givre, dans un pays magique. Les chaînes translucides esquissaient des figures d'une complexité inouïe, des motifs délicats, fabuleux, comme fabriqués par des artistes cristalliers. Il les éclaira du rayon de sa lampe pour en admirer les dessins entrelacés et les reflets infinis, noirs, gris, blancs, nacrés, dorés. Ils se reposèrent 2 heures tout près de la ville d'Uzerche. Il n'y avait pas de panneau indicateur, mais il sembla à Franks reconnaître la forme générale de la cité au creux des collines et les méandres visibles de la Vézère. Ils dormirent dans la chaleur des 3 chiens couchés contre eux, sous une étroite avancée de givre qui les protégeait vaguement du vent et de la neige. Franks avait cassé des petits morceaux de glace qu'ils avaient fourrés dans leur bouche jusqu'à ce qu'ils fondent. Ils avaient à peu près étanché leur soif, mais leur faim restait, elle, criante. Ils ne trouveraient rien pour l'assouvir, même partiellement. Il leur restait seulement à puiser dans des réserves énergétiques déjà largement entamées. Cette masse sombre au sommet d'une colline. Il la reconnut sans l'ombre d'une hésitation. Comment Souria, les chiens et lui-même avaient-ils parcouru le chemin jusqu'ici? Il n'en avait pas la moindre idée. Il posait un pied devant l'autre depuis une éternité, luttant contre les tourbillons et les incessants rideaux de neige. Il maintenait solidement Souria sur ses épaules. La fillette se penchait sur un côté de sa tête pour ne pas recevoir les bourrasques et les projections de neige en pleine face. Les chiens marchaient en file derrière eux, comme s'ils avaient compris qu'ils devaient maintenant rester groupés, que le moindre intervalle dans une telle tourmente risquait de se transformer en gouffre impossible à combler. Le blizzard avait tout noyé, d'Uzerche à Brive. Le vent furieux abaissait la température de plusieurs degrés. Ils ne distinguaient pas à plus de 3 mètres devant eux. Franks s'était demandé s'il suivait la bonne direction, la tourmente occultant les rares points de repère. Puis, l'itinéraire s'était dessiné en lui, avec une clarté étonnante. Il avait abandonné le tracé de la route quelques kilomètres avant Brive pour suivre une autre direction. Il se doutait que Souria avait quelque chose à voir avec ses perceptions. Il avait bifurqué par un massif aux pentes douces et traversé une première rivière, la Vézère probablement. Le vent qui s'engouffrait en mugissant dans la vallée avait nettoyé le cours d'eau de ses surplus de cendres et de neige et poli l'épaisse glace qui la recouvrait, la laissant aussi nette et lisse qu'un miroir. Puis ils avaient traversé une deuxième rivière. Lorsqu'il avait reconnu la région de l'Arche, il avait compris qu'il venait de franchir 2 fois la Vézère, qui formait un coude pratiquement à angle droit entre Brive et l'Arche, à l'endroit où la Corrèze, son affluent, se jetait en elle. Il était donc arrivé dans le Périgord, à moins de 20 kilomètres de chez lui. La faim était telle qu'elle lui creusait tout le corps, du sommet du crâne aux extrémités des doigts de pied. Les chiens gémissaient en sourdine, signe qu'ils peinaient de plus en plus, eux aussi, à progresser dans cette soupe de neige glacée. À partir de là, il avait reconnu le chemin, bien que le cataclysme eût par endroits chamboulé les paysages. Il avait refoulé avec l'énergie du désespoir la tentation de plus en plus dévorante de s'arrêter, de renoncer. Nadayak, Paulin, toutes les fermes et les résidences secondaires qu'il connaissait s'étaient effacées de la surface de la terre. Trop fatigué pour se réjouir, il descendit Souria de ses épaules et contempla l'ombre massive au-dessus du Causse. Le feu de Dieu.